RFI, 6h30 à Paris, 5h30 en temps universel.
RFI Matin.
Et le journal. Bonjour Vincent Dublanche.
Et bonjour Julien, bonjour tout le monde. À la une, ne rien faire, c'est déjà choisir la nouvelle alerte hier de Félix Tshisekedi face à la communauté internationale à la conférence sur la sécurité de Munich. Et ce, alors que le M23 soutenu par le Rwanda avance vers Bukavu, au sud Kivu. On va faire le point dans un instant. La RDC qui est abordée au sommet de l'UA à Addis Abeba. Une réunion s'est déjà tenue hier dans un climat électrique, dit un participant. Le Soudan était aussi évoqué hier en Éthiopie. L'afflux d'armes doit cesser, prévient le secrétaire général de l'ONU qui participe au sommet de l'UA. Et ce alors que la situation, vous allez l'entendre, se dégrade encore autour d'El Fasher, au Darfour Nord. Dans 5 minutes, on est au Niger, car c'est aujourd'hui le début des assises nationales. On va vous parler aussi de l'expulsion par le Burundi de 2 responsables locaux du programme alimentaire mondial de l'ONU. Le journal des sports dans 10 minutes et la déception du Camerounais de 20 ans, Yves Missi, qui ne pourra pas participer au Rising Star Challenge, le All-Star Game des jeunes en NBA nord-américaine, car il est blessé. Mais d'abord donc bien sûr la République démocratique du Congo. Les combats font rage, la crise sécuritaire se poursuit dans l'est du pays. Elle doit être, je vous le disais, au sommet, au cœur du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se tient aujourd'hui et demain à Addis Abeba au siège de l'institution panafricaine. Bonjour Pauline Azidi.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Kinshasa pour Radio France Internationale. Hier, le M23 appuyé par l'armée rwandaise sur le terrain a connu une avancée. Donc au sud Kivu, le groupe armé et ses soutiens rwandais sont désormais signalés dans la capitale provinciale Bukavu.
Oui, alors en début de journée ce vendredi, l'armée congolaise confirmait que le M23 et les militaires rwandais étaient signalés à l'aéroport de Kavumu. Il est situé à environ une trentaine de kilomètres de Bukavu. Kavumu, c'est aussi une base militaire où s'était par exemple installée la MONUSCO, la mission onusienne, jusqu'à son départ de la province en 2024. Dernièrement, il y avait stationné des militaires congolais et burundais déployés dans le cadre d'un accord bilatéral. Et après cet aéroport, c'est une source gouvernementale qui a confirmé dans la soirée la présence dans la capitale provincial Bukavu d'éléments du M23 et de leurs alliés rwandais sans donner plus de détails. L'armée, de son côté, évoquait des combats entre les deux localités jusque tard dans la nuit et les autorités provinciales avaient dans la journée convoqué un conseil de sécurité.
Cet enchaînement d'événements sur le terrain a en tout cas, Paulina, poussé hier le président Félix Tshisekedi à écourter son séjour en Allemagne pour rentrer à Kinshasa.
Selon la présidence, il ne se rendra donc pas au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba ce samedi, comme c'était initialement prévu. Et à Munich, le président est resté catégorique, pas de négociation avec la FCM23, qui n'est qu'un paravent que le Rwanda met en avant. Lors de cette même prise de parole, Félix Tshisekedi a aussi pointé du doigt son prédécesseur, Joseph Kabila. Il l'accuse d'être impliqué dans l'opposition armée. Le vrai commanditaire dans cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila, mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions, a déclaré le président congolais.
Pauline Azidi, en direct de Kinshasa pour RFI. Il y a aussi une forme de bataille diplomatique, alors que s'ouvre, on l'a dit aujourd'hui, le sommet des dirigeants de l'Union africaine. Les 55 membres réunis à Addis Abeba au siège de l'institution panafricaine. Le travail a débuté depuis plusieurs jours, avec les ambassadeurs d'abord, puis les ministres mercredi et jeudi. Certains chefs d'État ou de gouvernement sont arrivés hier en Éthiopie et plusieurs ont pris part à la réunion du Conseil de paix et de sécurité. Hier, la première ministre congolaise, Judith Suminwa, représentait Kinshasa, puisque que l'un des deux thèmes principaux était le conflit armé dans l'est de la RDC. Notre envoyée spéciale Florence Maurice nous raconte.
En l'absence de Félix Tshisekedi, il n'y a pas eu de face-à-face avec Paul Kagame, mais les échanges n'ont pas été moins vifs. C'était électrique, témoigne un participant. Il faut dire que ce conseil s'est ouvert alors même que la FCM 23 réalisait une nouvelle percée dans le sud Kivu. Signe de la tension qui régnait, la conférence de presse prévue à l'issue a d'ailleurs été annulée en milieu de soirée. Plusieurs chefs d'État ont aussi quitté la rencontre un peu avant la fin, notamment le président Kagame et le médiateur angolais João Lourenço. Tous deux s'étaient déjà isolés pendant la réunion pour un long aparté. Parmi les questions litigieuses, celle des troupes rwandaises présentes sur le sol congolais. La RDC a une nouvelle fois plaidé pour que Kigali soit explicitement indexé et condamné pour son rôle dans le conflit. Plusieurs pays d'Afrique australe ont abondé en ce sens, dont le Zimbabwe, mais sans obtenir gain de cause. Le communiqué final devrait donc s'aligner sur les conclusions du sommet de Dar es Salaam sans aller plus loin. Appel à un cessez-le-feu, au respect de l'intégrité territoriale de la RDC, à la reprise d'un dialogue direct entre toutes les parties, fusion des processus de Luanda et de Nairobi, sans mentionner le Rwanda. Florence Maurice, Addis Abeba, RFI.
Autre thème abordé lors de cette réunion, le Soudan. Appétit d'influence et de contrôle des territoires d'autrui, guerre par procuration. Ce sont les mots utilisés hier par le président sortant de la commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, qui s'exprimait donc devant le Conseil de paix et de sécurité de l'UEA. Il y avait aussi une autre réunion un peu plus tôt à Addis Abeba, toujours dédiée à la situation humanitaire au Soudan. C'est la pire crise au monde, avec des millions de déplacés internes et des millions de civils qui n'ont quasi rien à manger. L'afflux d'armes au Soudan doit cesser, exhorte depuis Addis Abeba le secrétaire général de l'ONU. Les civils doivent être protégés, l'accès humanitaire sécurisé doit être facilité, ajoute Antonio Guterres. La famine frappe dans les régions du Darfour, dans l'ouest du Soudan, notamment autour de la grande ville d'El Fasher, qui est tenue par l'armée et ses soutiens, mais où les combats avec les paramilitaires des FSR s'intensifient ces derniers jours. Combats qui ont lieu, y compris à l'intérieur même du grand camp de déplacés de Zamzam. C'est intenable, témoigne ce matin, et dénonce, Michel, la charité de Médecins Sans Frontières.
Le camp est complètement encerclé par les forces de soutien rapide et les civils n'ont nulle part où aller. Certains ont décidé de fuir par les moyens qu'ils pouvaient, certains ont rejoint quelques villages, mais c'est vraiment une infime minorité de personnes qui arrivent à bouger. Les combats ont détruit une partie des systèmes d'eau qui permettaient que les populations puissent boire, donc tout le système d'eau qui était au nord a été détruit. Il faut savoir que les combats se sont concentrés sur Zamzam, mais il y a aussi d'autres combats dans des villages à proximité qui a provoqué un nouvel afflux aussi de déplacés vers Zamzam. Donc si on combine une partie du camp qui a brûlé, de nouvelles personnes qui arrivent sur le camp, on se retrouve avec une densité de population un peu plus importante, au même moment où il y a une pénurie ou destruction des systèmes d'eau, et on ne parle pas non plus de l'accès à la nourriture, qui depuis des mois est extrêmement précaire, donc la situation ne fait que se dégrader. Donc Médecins Sans Frontières, on demande que les civils puissent se diriger là où elles le souhaitent, sans qu'elles soient attaquées par les forces de soutien rapide, et bien sûr, il faudrait restaurer l'accès humanitaire à la ville de El Fasher et au camp de Zamzam.
Des propos recueillis par Christina Okello.
Zérékoré, 89.9 FM.
En Guinée, le collectif des organisations de défense des droits humains de Nzérékoré, dans le sud du pays, publie son rapport d'enquête sur la tragédie du 1er décembre, cette bousculade meurtrière lors de la finale d'un tournoi de foot à la gloire du président de transition Mamadi Doumbouya. 56 morts, dit le bilan officiel, au moins 140 selon le collectif des ONG qui pointe, je cite, une volonté de dissimuler la vérité. Pas de réaction des autorités guinéennes au sujet de ce rapport. On en parlait en détail avec notre invité d'Afrique Midi hier et vous l'écoutez, vous le réécoutez sur RFI Pure Radio. Il s'agit du président d'Avocats Sans Frontières Guinée. Les avocats du Niger, qui eux ne vont pas prendre part aux assises nationales, elles débutent aujourd'hui à Niamey, elles vont durer 5 jours, cela une semaine seulement après que les autorités en ont annoncé la tenue. C'est le chef du canton de Saint-Dair, Mamoudou Haruna Dingaré, qui a préparé les travaux. Eva Massi fait le point.
Gouverneur, préfet, chef de canton, leader religieux, représentant de la société civile, 674 personnes ont été invitées à participer à cet événement organisé durant 5 jours au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. Parmi elles, 3 anciens présidents nigériens, Mahamadou Issoufou, Salou Djibo et Mahamane Ousmane, seront-ils présents ? La question reste en suspens. L'ordre des avocats a prévenu mercredi qu'il ne participerait pas à ce rendez-vous, dont les partis politiques, suspendus depuis fin juillet 2023, seront les grands absents. Les travaux de ces assises devraient s'appuyer sur les réunions de concertation menées début 2024 dans les 8 régions du pays. Les discussions tourneront autour de 5 grandes thématiques comme paix, sécurité et réconciliation ou refondation politique et institutionnelle. À l'issue des travaux, des recommandations seront formulées et un avant-projet de charte de la transition sera rédigé. La durée de la transition pourrait ainsi être fixée. En août 2023, le général Tiani avait annoncé que ladite transition ne durerait pas plus de 3 ans. À l'époque, il avait également promis d'organiser rapidement un dialogue national inclusif, un dialogue qui ne voit finalement le jour que 18 mois plus tard.
Eva Massi. Autre transition, elle est en train de prendre fin au Gabon, en tout cas. Gabonaises et Gabonaises commencent à y voir plus clair sur le processus électoral qui va conduire à l'élection présidentielle. Elle est prévue le 12 août prochain. Il y a eu un conseil des ministres jeudi et le gouvernement de transition a adopté à ce sujet une série de décrets. RFI Libreville, Yves-Laurent Goma.
Selon le communiqué du gouvernement, les candidats à l'élection présidentielle doivent déposer leur déclaration de candidature d'ici moins de 3 semaines, du 27 février au 8 mars prochain. Le texte ne le dit pas, mais selon le code électoral, les frais de candidature qui étaient à 20 millions sont passés à 30 millions de francs CFA. La campagne électorale se déroulera durant 14 jours seulement. Elle s'ouvrira le 29 mars et prendra fin le 11 avril, soit un jour avant le vote prévu le 12 avril. Chaque candidat doit déposer à la Cour des comptes son budget de campagne qui prévoit toutes les dépenses à effectuer durant la période. Aucun plafond n'a été fixé. Cette disposition n'existait pas sous l'ancien régime. Autre nouveauté, tous les candidats seront sur une liste unique. Durant des décennies, l'opposition réclamait à corps et à cri ce bulletin unique, mais le pouvoir ne l'avait jamais accepté. À ce jour, aucun poids lourd de la vie politique ne s'est encore porté candidat à cette élection. Yves Laurent Goma, Libreville, RFI.
Radio France Internationale, merci de votre fidélité sur le 90 FM à Cotonou. Au Bénin, le ministre des Affaires étrangères a reçu hier pendant une demi-heure l'ambassadeur du Bénin au Niger, Gildas Agonko. Rappelé pour consultation, il avait tenu début février à Gaya au sud du Niger des propos qui ont fortement déplu aux autorités béninoises. Il avait demandé pardon au peuple nigérien dans un contexte de crise entre les deux pays. On ignore si le dossier va en rester là ou s'il sera relevé de ses fonctions. De bonnes sources, en tout cas jusqu'à hier soir, aucune décision n'avait encore été prise. Au Bénin toujours, et selon des sources bien informées, l'homme d'affaires Olivier Boko et l'ancien ministre des Sports Oswald Romeki n'ont pas fait appel de leur condamnation prononcée fin janvier, 20 ans de prison pour complot contre la sûreté de l'État. Ils disposaient de 15 jours pour faire appel et le délai a expiré hier. On va terminer au Burundi, où la représentante du programme alimentaire mondial de l'ONU, sa chargée de sécurité aussi, ont été expulsées du Burundi. Sibi Lawson Mario et Sarah Nguyen ont quitté le pays hier. Elles avaient été déclarées persona non grata 48 heures plus tôt par le gouvernement burundais. Welly Diallo nous raconte pourquoi.
C'est à bord d'un avion rwandais que la numéro 1 du PAM au Burundi et sa chargée de sécurité ont dû quitter le pays. Le gouvernement leur avait donné 48 heures pour partir après leur avoir notifié leur expulsion. À l'origine de la crise, des consignes sécuritaires internes qui ont été transmises au personnel et ont fuité sur les réseaux sociaux. Elles leur demandaient de faire des stocks pour 2 semaines de nourriture, d'eau, de combustible ménager ou encore d'argent en liquide en cas de coup dur sécuritaire. Ces consignes ont été transmises à l'ensemble du personnel et des membres locaux les ont transmises aux autorités et publiées en ligne selon une source interne. Inadmissible pour le gouvernement burundais, pour qui cela viserait à semer la panique au sein du corps diplomatique et de la population. Les deux responsables ont donc été accusés d'atteinte à la sûreté de l'État et poussés vers la sortie. Cette polémique intervient dans un contexte de montée de tensions au Burundi, allié militairement à Kinshasa dans sa guerre contre le M23 soutenue par le Rwanda, qui se rapproche d'autant plus de sa frontière.
Welly Diallo du service Afrique de Radio France Internationale. Et la suite des RFI Matin, c'est avec Julien Coquelroem.
Merci Vincent Dublange, à tout à l'heure. RFI Matin, la suite, prochain journal dans moins de 20 minutes. Et le...